Vous écoutez France Culture.
Le journal était signé Sarah Petitbon. Bonjour à toutes et à tous.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître, qui était Jacques de Rogy, qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information. Avancée fulgurante, progression inexorable, stupeur en Irak. La presse a rivalisé de formules choc toute cette semaine pour qualifier la situation à Mossoul et à Tikrit, ville du nord de l'Irak, qui sont tombées aux mains des djihadistes sunnites, qui semblent désormais se diriger vers Bagdad. Autant de coups d'éclat revendiqués par l'État islamique en Irak et au Levant, également baptisé souvent dans la presse du nom de ses acronymes en anglais, ISIS, ou en arabe, Daesh. Ce groupe ultra-radical, dissident d'Al-Qaïda, est désireux de créer un État islamique à cheval sur la Syrie et l'Irak. Il fait beaucoup parler, mais en réalité, on va le voir, on en sait assez peu sur lui. Question donc, ce matin, les journalistes peuvent-ils vraiment savoir qui est l'État islamique en Irak et au Levant ? Avec nous ici, dans ce studio, trois spécialistes de la région, Agnès Rotivel, grand reporter à La Croix, Claude Guibal, chef du service étranger de France Culture, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et Jean-Pierre Perrin, grand reporter à Libération, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Et par téléphone, depuis le Liban, le chef du bureau de l'AFP à Beyrouth, Sami Kets, bonjour également.
Bonjour.
Comme toujours, nos deux regards extérieurs sont également présents. L'homme des images et du multimédia, Éric Chavroux, bonjour.
Bonjour.
Et l'un des membres de notre cercle d'observateurs des médias ce matin, le sociologue Jean-Marie Charon, bonjour.
Bonjour.
Avec dans les coulisses ce matin, Élise Le, Mathias Mégy et Vincent Abouchard. Et avec vous, bien sûr, pour tous les commentaires sur franceculture.fr et sur les réseaux sociaux. C'est le 135e numéro du Secret des sources sur France Culture.
À l'étranger, on l'évoquait dès hier, le groupe djihadiste dissident d'Al-Qaïda poursuit sa conquête en Irak. Plusieurs nouvelles villes sont tombées entre ses mains. Les civils sont en train de fuir en masse. Samassoula.
L'armée irakienne face aux rebelles djihadistes. Quelques heures de combat dans les rues de Kirkouk. Puis les soldats irakiens battent en retraite. Manifestement, les combattants
ce
face
groupe
à eux
djihadiste dissident dont parlent ici David Pujadas et Samassoula lors du journal de France de mercredi soir, c'est donc l'État islamique en Irak et au Levant, groupe né en fait une première fois en Irak il y a 8 ans, puis réapparu en Syrie il y a un peu plus d'un an sous sa nouvelle appellation. Aujourd'hui, il prospère donc à l'est de la Syrie, dans les régions de Raqqa et d'Erezor, et dans la continuité géographique à l'ouest de l'Irak, dans les régions d'Anbar, Ninive et Salah ed-Din. Ce groupe radical, je le disais, fait la une, mais comment connaître exactement la nature de ce groupe, c'est un défi pour le journaliste. En fait, est-ce qu'il y a moyen, Agnès Rotivel, Claude Guibal, quand on enquête sur ce sujet, d'entrer en contact direct avec les membres de ce groupe ?
Moi, je n'ai jamais pu le faire, en l'occurrence. On peut entrer en contact direct avec des gens qui se revendiquent proches de ce groupe, qui se revendiquent sur leur compte Twitter, notamment comme... sympathisants ou membres, mais la vérification en tant que telle est, à mon sens, impossible, dans le sens où ce ne sont pas des gens qu'on peut rencontrer et qu'il est difficile de recouper les sources. Il faut donc utiliser d'autres méthodes supplémentaires pour se renseigner sur ce groupe.
Agnès Rotivel, pas de contact possible direct, pas d'interview, rien.
Pas de contact direct, déjà pour des raisons évidentes de langue, qui tout le monde ne parle pas forcément l'arabe. Et puis, ce ne sont pas des gens qui sont tellement habitués, je suis sûre, à donner des interviews, plutôt peut-être des vidéos sur Internet où ils se mettent en scène.
On va en parler tout à l'heure.
Voilà. Par contre, effectivement, pour à nous chercher sur les médias, alors sur les médias sociaux, mais moi, je suis plus classique dans mes recherches. J'ai plus tendance à appeler des spécialistes de la région.
Et là aussi, on va en parler tout à l'heure, bien sûr.
Voilà.
Sur ce point précis, Sami Kets, AFP à Beyrouth, vous confirmez pas de relation directe possible, pas de reportage possible, impossible de savoir, on va dire, directement ce qu'il y a dans la tête de ces djihadistes.
Bon, je crois
que c'est très difficile. Je crois que les seuls qui ont pu en avoir, c'est peut-être nos confrères qui ont été enlevés par eux. Je crois que sinon, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il y a eu deux périodes. Il y a la période irakienne, puis la période syrienne. La période irakienne, au début, on a pu avoir quelques contacts avec eux, mais ensuite, c'est devenu quasiment impossible. Alors aujourd'hui, nous, on a des contacts avec eux, enfin avec des gens de l'État islamique par le biais d'Internet, mais directement, ce n'est pas le cas, c'est impossible.
Alors, par exemple, du coup, on voit circuler des chiffres. Par exemple, cette semaine, dans la presse, j'ai eu d'ailleurs des chiffres assez contradictoires sur les estimations du nombre de membres de ce groupe. J'ai lu 3000 et puis j'ai lu 11000. Est-ce qu'il y a moyen, Sami Khetz, d'avoir des informations fiables, sachant qu'encore une fois, il n'y a pas de contact direct?
Non, il n'y a pas de possibilité d'avoir des chiffres. Les seuls chiffres qu'on peut avoir, c'est par les opposants, c'est-à-dire les rebelles, qui nous donnent des chiffres sur leur nombre, mais leur nombre, effectivement, on parle de 3000, on parle de 6000, on parle de 11000, et effectivement, c'est très difficile à déterminer un véritable chiffre de leurs membres, de leurs militants.
Donc on est dans la pure spéculation, Agnès Rotivel, quand on
voit
ces chiffres.
Oui, et puis je ne suis pas sûr que c'est forcément de sens, parce que ce sont des groupes qui recrutent beaucoup. Je veux dire, par exemple, à Mossoul, ils ont libéré les prisons. Tout de suite, ils ont libéré 2 à 3 000 personnes qui sont des recrues pour eux, ça c'est clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est véritablement des vrais, des bons combattants ou pas? Je veux dire, c'est pas comme une armée. Ils ne fonctionnent pas comme une armée classique, et c'est pour ça que c'est si compliqué.
C'est un peu poreux, ça va et ça vient aussi, c'est ça que ça veut dire.
Il faut essayer de recouper les chiffres qui sont donnés, savoir si l'on parle de ceux qui se trouvaient en Syrie, ceux qui se trouvent en Irak. Si on est en Syrie, est-ce qu'on en admet le chiffre de environ 2000 combattants occidentaux qui pourraient être en Syrie aujourd'hui? C'est le chiffre qu'on entend assez régulièrement. Et on les sait principalement attirés vers l'État islamique en Irak et au Levant parce que c'est le groupe le plus radical qui propose la voie la plus pure islamiquement et la plus radicale au niveau de la violence. Donc, est-ce qu'on les agrège à ce groupe-là? C'est très, très difficile de toute façon. Là, on peut juste en être réduit à recouper, à vérifier. On parle de 10, 15 000.
Alors, exemple justement, vous parlez de ces sympathisants et de ces djihadistes étrangers. Alors, certains, on arrive à les joindre. Marwa Man pour France Culture l'a fait il y a quelques semaines. Et on va écouter un extrait de ces témoignages. Donc, ces militants djihadistes joints pour France Culture et qui ne cachent pas leur fascination pour l'État islamique en Irak et au Levant.
Ils ont pris la ville de Fallujah, alors que ça fait une dizaine d'années. Ils ont pris la ville de Anbar, alors que ça fait très longtemps. Ils ont pris la ville de Ramadi, alors que ça fait des lustres. Ils sont rentrés dans Bagdad et ils roulent avec leur pick-up, avec un gros drapeau d'Aoula Islamiyef, l'Irak ou Hachem, au cœur de Bagdad. À l'heure d'aujourd'hui, tu viens, il y a des endroits, il y a des villes, il y a des régions tout entières qui sont sous la charia. L'État islamique, il est là, on est en train de mettre les fondements, il est en train d'être créé. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est en train d'être appliquée. Les gens qui forment ce groupe qu'on appelle l'État islamique d'Irak et du Cham, ces gens-là, personne ne pourra les arrêter. Personne ne pourra jamais arrêter l'islam.
Irak et Cham. Cham, c'est le Levant. Quand on entre en contact comme ça avec des djihadistes étrangers, est-ce qu'on peut croire ce qu'ils disent sur l'État islamique en Irak et au Levant ou est-ce qu'on est dans de la propagande? Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est vrai ce qu'ils nous racontent quand ils nous disent qu'ils paradent dans Bagdad, par exemple?
Moi, je pense qu'il y a une part d'exaltation, surtout chez des gens qui... Je ne sais pas quel est son background, mais je n'ai pas le sentiment qu'ils connaissent très très bien la région. Quand ils parlent de
parader sont en Syrie, ça c'est avéré.
Parader
reste...
dans les rues de Bagdad avec l'effigie de Daesh ou de ISIS ou de YEL, je doute que ça passe très longtemps dans les rues. Je doute qu'ils ne soient pas arrêtés assez rapidement. Bagdad n'est pas une ville où les sunnites, et particulièrement les gens de ces groupes-là, vont parader. Ce n'est pas possible.
Sami Khetz, à Beyrouth, de la crédibilité de ce genre de témoignage sur l'État islamique en Irak et au Levant?
Si vous permettez, je voudrais revenir sur quelque chose, sur le nombre. Par exemple, si vous prenez en Syrie, si vous prenez par exemple la région de Raqqa, l'État islamique a réussi à s'agréger la grande tribu de Raqqa, c'est-à-dire que la grande tribu de Raqqa a fait acte d'allégeance à l'État islamique. Par exemple, à Deir ez-Zor, c'était plutôt une tribu qui a fait plutôt allégeance au front al-Nusra. Bon, maintenant, il y a des batailles, évidemment. Donc, je veux dire que le problème de la façon dont le nombre exact de personnes, c'est très difficile à indiquer. Mais ce qui est certain, c'est que Daesh s'occupe beaucoup des relations avec les tribus, avec les chefs de tribus, pour pouvoir les gagner à lui et pouvoir agir avec eux. Ça, c'est un des points qui me semble important pour pouvoir comprendre comment Daesh agit. Maintenant, sur les combattants étrangers, je suis sûr que, évidemment, c'est l'exaltation, parce que j'ai pas vu, enfin, en tout cas, depuis 2006 ou 2007, j'ai pas vu des gens d'Al-Qaïda ou de Daesh, enfin, en tout cas, les pas de l'État islamique d'Irak, à Bagdad même. Il n'y en avait plus. C'était pas possible.
Donc une crédibilité limite pour ce genre de témoignage. Hein. Donc on va le rappeler au fur et à mesure de l'émission, hein, toujours Daesh, ISIS, État islamique en Irak et au Levant, tout ça c'est la même chose, ce sont les acronymes selon qu'on les utilise en français, en anglais ou en arabe. Dans cette famille, si je puis dire, État islamique en Irak et au Levant, il y a aussi les leaders, mais là encore, énigme.
Il n'existe que deux photos d'Abou Bakr al-Baghdadi. Sur celle-ci, diffusée par le FBI, il apparaît joufflu et mal rasé. Sur celle du ministère irakien de l'Intérieur, il semble plus mince et dégarni. Mais aujourd'hui, impossible de dire à quoi ressemble le chef de l'État islamique.
Plusieurs articles encore dans la presse cette semaine sur Abou Bakr al-Baghdadi, le leader présumé. Mais à l'image de ce sujet de BFM Télé, tous les articles commençaient peu ou prou par le mot énigme. Aucun journaliste ne l'a jamais rencontré. On est uniquement dans le on-dit. On est presque tenté de se demander, Sami Khatt, s'il existe.
Je pense qu'il existe, puisque bon, il fait des interventions audio, et ça c'est sûr. En plus, il a succédé à son prédécesseur qui a été tué lors d'une opération américaine auparavant. Donc je pense qu'il existe. À mon avis, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Maintenant, effectivement, c'est une organisation extrêmement secrète et qu'il est extrêmement difficile de pouvoir rencontrer, de pouvoir le dire. Mais en tout cas, ce qu'ils disent, ce qu'ils annoncent, ils essayent de s'en tenir et de le faire.
Claude Guibal, Agnès Rottivel, sur les dirigeants comme sur les militants, on a l'impression que c'est le même problème. De toute façon, c'est impossible d'entrer en contact.
Ah oui, et je crois qu'en plus, Abou Bakr al-Baghdadi, lui qui se place dans une guerre de succession quand même, on parle de la guerre de succession qui fait rage au sein d'Al-Qaïda, dans la construction de son personnage, de sa légende, j'ai le sentiment qu'il se place en opposition de quelqu'un comme Ben Laden et après lui de Zawahiri, qui sont des gens qui avaient une grande communication, notamment par les biais des vidéos, etc. et tout. Cette communication lointaine qui a décrédibilisé et délégitimé, par exemple, Zawahiri, qu'on sent l'homme qui glose, l'homme qui parle. Baghdadi, lui, veut incarner l'homme qui agit dans le silence. Le choix de sa kunya, de son surnom, est aussi très lourd de sens. On ne sait pas comment il s'appelle, mais Abou Bakr, c'est le premier des califes, le compagnon du prophète, celui qui part à la conquête de l'Arabie. Tout cela, ça contribue à la construction d'un personnage que l'on sent quand même assez au fait, moi je trouve, dans la communication, parce qu'il y a le secret sur lui et à côté de ça, il y a cette énorme propagande que l'on sent. Ils sont quand même très très présents sur les réseaux sociaux, par le biais des vidéos.
On va développer là aussi là-dessus tout à l'heure, évidemment. Agnès Rottivel aussi, c'est pareil. Hein.
Oui, non, mais je suis d'accord.
Dans le on-dit, dans la seconde main, voire dans la...
Oui, mais comme on l'a été aussi pour l'Afghanistan avec Mollah Omar, vous vous souvenez, on en a fait un personnage absolument incroyable, Mollah Omar, etc. Et puis en fait, personne ne l'avait rencontré. Et finalement, moi je disais, la seule personne que j'ai pu rencontrer pour m'en parler directement, c'est un religieux à Kaboul qui m'a dit, mais vous savez, c'est pas du tout ce que vous croyez, c'est un simple petit imam de mosquée, de petites mosquées qui n'a aucune culture religieuse. Donc la question, est-ce que nous on ne se trompe pas quand on parle de ce Mollah Omar qui était le compagnon de route de Ben Laden
et qui s'enfuit sur sa mobylette en Afghanistan.
Et après qui finalement s'enfuit sur une mobylette. Voilà. Il était borgne, est-ce qu'il était vraiment borgne ou pas, ça fait partie aussi d'un mythe, mais je pense que pour aller dans le sens de ce que dit Claude Guibal, pour les gens dans cette région, on a besoin d'avoir l'image d'un chef. Et il faut aussi construire une image du chef autour. Donc je pense effectivement que dans ce cas-là, ils le font très bien.
Alors, ce qui rend aussi les choses évidemment très compliquées pour le journaliste qui veut enquêter sur ce groupe, et Sami Khatt s'y faisait allusion tout à l'heure, c'est que l'État islamique en Irak et au Levant voit dans la presse d'abord et avant tout une cible.
They're holding them because they think in the future the West may come in and intervene against the jihadi movement in Syria instead of against Assad, and they want to use these hostages as human shields.
L'homme qu'on entend ici, c'est le directeur urgence de l'ONG Human Rights Watch, Peter Bukart, l'un des meilleurs spécialistes du terrain syrien, évoquant il y a quelques mois ces prises d'otages en Syrie, quasiment toutes attribuées à l'État islamique en Irak et au Levant, d'expliquer, vous l'entendiez, qu'il s'agit d'un véritable business pour se constituer une sorte de réserve de bouclier humain face à l'hypothèse d'une intervention occidentale, puis avant d'ajouter que c'est un business de l'otage sans précédent depuis la guerre civile au Liban il y a plus de 30 ans, et que ce groupe djihadiste détient sans doute en otage des douzaines et des douzaines de personnes dont, bon nombre, on ne connaît même pas l'identité. Chercher à s'approcher de ce groupe, Sami Khets, c'est prendre systématiquement le risque d'être tué ou enlevé ?
Absolument, je pense que c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, je pense que c'est même impossible, puisque si vous avez essayé d'aller à Raqqa, et c'est arrivé à un certain nombre de nos confrères, ils se sont fait enlever. Donc je pense que c'est quasiment impossible. Et même d'ailleurs, quand vous discutez avec des rebelles d'autres organisations, eux-mêmes disent que c'est impossible de s'approcher d'eux. Donc je crois que c'est vraiment extrêmement difficile de pouvoir avoir une relation. Je vous dis, nous, on a de temps en temps, on parle avec des gens qui affirment évidemment faire partie de l'État islamique. On n'a pas la preuve absolue, sauf à partir du langage et des propos qu'ils tiennent, qui peuvent paraître effectivement comme étant membres de ça, surtout qu'en plus, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas membres avant et qui le sont devenus. Donc c'est notre seule façon de pouvoir avoir ça, plus évidemment, comme l'ont dit les autres confrères, des vidéos, les images, mais sinon directement, non.
Ça veut dire aussi, Sami Khets, que c'est le même défi, la même problématique, y compris pour les fixeurs, les stringers, les journalistes locaux auxquels fait appel évidemment l'AFP sur le terrain, qui sont a priori davantage fondus dans la population, mais c'est pareil, le risque est le même.
À Raqqa, il n'y a quasiment plus de journalistes citoyens locaux ou qui peuvent aujourd'hui informer. La plupart ont quitté vers la Turquie, et ceux qui n'ont pas quitté sont en prison ou torturés ou dans des conditions atroces de vie, quoi.
Au-delà du cas particulier des prises d'otages, on a la sensation qu'on est plus largement désormais, aussi bien dans le cas syrien que dans le cas irakien, en présence de terrains qui finalement ont été abandonnés ou délaissés par la presse parce que trop dangereux, on peut dire ça comme ça, Agnès Rotivel ? Et puis après, bon, Jean-Pierre Perrin de Libération, que je salue et qui nous a rejoint.
Oui, bonjour.
Il y a effectivement le danger qui est important. Après, ça dépend des rédactions et ça dépend... Voilà, ça dépend de beaucoup de choses aussi, mais je voulais simplement dire qu'il y a quand même d'autres sources qu'on peut aussi exploiter. C'est que quand vous avez des contacts dans des villes où il y a eu, où ils sont installés, etc., vous pouvez toujours appeler les gens. Et les gens, a priori, sont aussi des bonnes sources, parce qu'ils vous décrivent ce qui se passe, ils vous décrivent comment... Je veux dire, il faut pas négliger ça, la source qui est la population aussi, qui connaît, qui sait comment ça fonctionne, et qui est une aussi bonne source qu'un fixeur, par exemple, ou autre.
Mais le journaliste, lui, n'est plus sur le terrain, aussi bien en Syrie qu'en Irak, on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, parce que trop dangereux, parce que trop cher aussi, parce que c'est le coût de la sécurité si on veut y aller sans prendre de risques, Jean-Pierre Perrin.
Oui, alors on apprend quand même beaucoup de choses quand on va à proximité, c'est-à-dire à Bagdad. Moi, je suis passé 15 jours à Bagdad, j'ai appris énormément de choses sur l'État islamique, c'est-à-dire j'ai eu la chance de rencontrer un expert, un jeune chercheur irakien qui travaille, m'a-t-il dit, 6 heures par jour uniquement sur les groupes extrémistes sunnites, et qui, dit-il, je les connais mieux que mes fils. Donc, ça fait des années qu'il travaille sur eux. Alors, effectivement, il a une masse d'informations considérable. Il a bien voulu m'en faire profiter. Donc, dans ma besace, j'ai rapporté des informations sur cet État islamique, à peu près la coordination entre les différents groupes, comment ça se fait. J'ai pu voir qu'il y avait quantité d'anciens officiers
de Saddam Hussein,
qui sont tout autour de lui. Voilà, le responsable des opérations militaires dans la province d'Al-Anbar, c'est un ancien colonel. Le wali de la province, c'est-à-dire le gouverneur de la province, est aussi un ancien baassiste. Et puis, il y en a bien d'autres, et y compris en Syrie, on retrouve également des colonels baassistes à tous les niveaux.
Alors, comme on ne cesse de le répéter au fil des numéros du Secret des Sources, la vérité journalistique passe d'abord par le terrain. Et on va prendre un exemple tout simple, hein, avec ce reportage hier à Erbil, donc non loin de Mossoul, de l'envoyé spécial de Radio France, Étienne Monin.
Au milieu des champs de blé déjà fauchés, sur le dernier barrage tenu par les soldats kurdes en direction de Mossoul, on perçoit clairement les divisions. Entre Arabes, déjà, il y a les chiites et d'autres familles, 47 au total, réfugiés sous des tentes par crainte des représailles à Mossoul. Et puis, il y a ceux qui retournent dans la ville, satisfaits comme Saad, de s'être débarrassés du pouvoir central chiité de son armée pour être enfin gouvernés par des sunnites et les tribus. Ce n'est pas d'une guerre entre tribus qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est faire tomber l'armée irakienne. Elle tue des familles, des gens, sans aucune raison. Elle n'a aucune pitié pour personne.
Voilà, donc un témoignage de terrain intéressant, hein, puisqu'il nous permet de comprendre pourquoi une partie de la population sunnite irakienne, victime des exactions de l'armée, se rallie aux djihadistes. Autrement dit, seul le terrain, avec ce genre de témoignage, permet d'apporter des nuances à un propos qui pourrait être de caricaturer très vite les choses en disant « il y a des méchants djihadistes
». Moi, j'ai eu un témoignage d'un chrétien, pour vous dire, c'est quand même pas des gens qui les accueillent forcément avec bras ouverts, mais enfin, il m'a dit la même chose, il m'a dit qu'il préférait encore ça au pouvoir de Bagdad. Et c'est quelqu'un qui est de Mossoul, enfin qui était de Mossoul, mais qui est maintenant à Karakoch, dans une ville qui est à côté de la plus grosse ville qui est à côté de Bagdad, qui est une ville essentiellement maintenant chrétienne. Et lui, il disait ça dans la façon dont il racontait les choses. Il disait c'est bien, ça y est, c'est terminé. On en a fini avec l'armée irakienne. Voilà.
Et ça, encore une fois, il n'y a que le témoignage de terrain, alors recueilli au téléphone potentiellement, mais a fortiori recueilli sur le terrain même, qui permet d'apporter ces nuances et de comprendre qu'il ne faut pas caricaturer le sujet, Jean-Pierre Perrin.
Oui, c'est vrai. Alors, par exemple, même le seul fait d'avoir de voir des hommes politiques irakiens, quand même, ils ont tous quelque chose à dire. En général, bon, ils parlent plutôt en mal de Maliki, et puis après, moi,
le premier ministre
irakien, bien sûr. Et à la fin de l'entretien, en général, je consacrais 5 minutes à leur demander « Mais qu'est-ce que vous savez ?» Toujours pareil, de l'État islamique et de ses différentes composantes. Et là, à chaque fois, on grappille quelque chose et c'est mis bout à bout qu'on arrive peut-être à reconstituer l'histoire quand même assez mystérieuse de cet État islamique et de son chef Abou Bakr al-Baghdadi, qui est une personnalité quand même extraordinaire et qui, je crois, s'il n'est pas tué, évidemment, d'ici là, va marquer les prochaines années. Je crois qu'on a tous intérêt, journalistes, à ouvrir nos dossiers et à travailler sur Abou Bakr al-Baghdadi. Et je voudrais juste simplement comment on peut travailler aussi très facilement, c'est-à-dire avec un simple mot en arabe sur un ordinateur. Vous tapez ce mot, vous tapez par exemple « en avant Bagdad ». En arabe, voilà. Je ne vais pas vous le dire, parce que je prononcerai mal. Et vous avez quantité de choses qui apparaissent. Simplement ça, et c'est une des... Alors après, vous faites des vérifications, c'est compliqué, rien n'est simple. Mais enfin, on n'est pas complètement tout nu devant la déferlante de l'État islamique. Et on arrive à savoir quand même pas mal de choses. Évidemment, ce n'est pas l'idéal, ça ne sera jamais l'idéal. L'idéal, ça serait de pouvoir aller avec eux, mais ça, c'est un autre sujet.
C'est ce qu'on disait au début de l'émission. Et pour l'instant, c'est impossible.
À Bagdad, on m'a dit, vous voulez les rencontrer ? Alors, j'ai hésité parce qu'il m'a dit... Et puis, la phrase suivante a été « Vous pouvez les rencontrer, c'est pas si difficile que ça, mais je vous préviens, c'est l'aventure. » Voilà.
Les journalistes peuvent-ils vraiment savoir ce qu'est l'État islamique en Irak et au Levant ce matin dans Le Secret des Sources sur France Culture avec Jean-Pierre Perrin de Libération, Agnès Rotivel de La Croix, Sami Ketz de l'AFP et Claude Guibal de France Culture. Chaque semaine, vous n'hésitez pas, vous réécoutez, vous téléchargez, vous commentez sur franceculture.fr. Dans un instant, le regard du sociologue des médias Jean-Marie Charon, après ces quelques notes du musicien syrien Omar Souleyman avec Björk. Omar Souleyman et Björk. Jean-Marie Charon, vous êtes, je le rappelle, sociologue des médias. On le voit, on est donc en présence d'un sujet compliqué pour le journaliste. Peu de sources directes, pas d'accès direct aux militants et aux dirigeants de l'État islamique en Irak, un terrain hostile et dangereux. Et le résultat, c'est forcément un traitement du sujet qui a tendance ou qui peut être désincarné, interprétatif, subjectif.
Oui, je crois qu'effectivement, c'est jamais très simple de travailler sur des mouvements qui sont en action sur le terrain, qui sont dans des confrontations très dures. Mais c'est vrai que là, ce qui est un peu original quand même, c'est qu'on a... Enfin, ce qui paraît particulièrement exacerbé, c'est ce qui a été évoqué, c'est-à-dire ce refus d'entrer directement en contact avec les médias. C'est-à-dire, il n'y a aucune recherche de contact avec les médias en tant que médias traditionnels, en tout cas.
Hormis via Internet.
Oui, cette forme d'hostilité à l'égard des journalistes, hein, c'est-à-dire le fait, effectivement, le problème de l'enlèvement, le problème de journalistes tués aussi. Alors, est-ce qu'ils se directement par eux? Mais enfin, il y a quand même un certain nombre de journalistes qui sont morts dans cette région.
Les humanitaires aussi, quand même.
Hein. Tout à fait, oui. C'est pas réservé. Mais disons que dans le cas des journalistes, ça pèse. Et puis, effectivement, ce fait de privilégier plutôt une communication directe. Alors, moi, ce qui m'a frappé, par exemple, au moment de la prise de Mossoul, j'étais en contact avec les gens de l'AFP. Bon, bah, la première chose qu'on me dit, c'est la personne de l'AFP la personne qui travaille pour l'AFP, elle s'est sauvée. Il n'y avait pas d'autre solution que de partir parce que c'est dans un contexte. Et ça me paraît quand même pas très fréquent, quoi. Alors, c'est vrai que ça nous donne un mode de traitement qui est, ça a été dit, hein, c'est-à-dire assez désincarné. C'est-à-dire, c'est plutôt factuel. On se polarise plutôt sur les aspects, je dirais, géopolitiques de l'événement. Il n'y a pas vraiment d'interview d'acteurs. Habituellement, dans ce genre de traitement, on essaye d'avoir des interviews d'acteurs. On essaye d'avoir aussi des observations, comment la population sur le terrain le vit, etc. Comme vous l'avez dit, on peut éventuellement avoir quelques contacts, mais ce n'est pas de l'observation très directe. Il y a aussi tout le flou autour de qui sont réellement les gens, les cadres, les...
Et en plus, le mystère qu'ils ont dans la tête,
dirigeants. Hein. Oui. Et puis, il y a surtout... Alors, vous venez de nous dire que vous rapportez des éléments là par grâce à un expert, mais quelle est l'organisation ? C'est-à-dire, comment ça fonctionne ? Quels sont les lieux stratégiques dans cette organisation ? Est-ce qu'il y a débat, pas débat ? Voire même, comment évoluent ces gens ? Je veux dire, ça fait plusieurs années qu'ils sont sur le terrain, dans des contextes qui sont parfois extrêmement durs, mais quels sont les parcours ? De temps en temps, on nous dit que quelqu'un revient en Europe, mais qu'est-ce qu'il a vécu ? Enfin, tout ça, nous échappe complètement. Du coup, les articles que l'on a, me semble-t-il, lorsqu'on fait un peu la synthèse de ce qui est paru ces derniers jours, ça nous donne quand même le sentiment qu'il n'y a pas de chair, il n'y a pas de vécu, il n'y a pas de concret.
Ça veut dire qu'aussi qu'il y a un risque de... Excusez-moi, je vous interromps, Jean-Marie Charron, mais il y a un risque de mythification. Enfin, on évoquait le cas du Mollah Omar tout à l'heure, finalement assez exagéré, nous disait Agnès Rotivel, par rapport à ce qu'il était réellement. Est-ce qu'on n'a pas le même risque avec Aboubakr al-Baghdadi et globalement l'État islamique en Irak ?
C'est vrai que quand on se plonge dans ce qui est publié et dans ce qui est montré, on a l'impression qu'on a affaire à une espèce d'identité abstraite, quoi. Quelque chose de dépersonnalisé. Et c'est vrai que les représentations qu'on a, on n'a pas à proprement parler beaucoup d'analyse, on a plutôt des slogans, on n'a pas à proprement parler des personnalités ou des individus qui incarnent le mouvement, on a plutôt des silhouettes qu'on nous présente dans des vidéos, etc. Et effectivement, on peut se demander d'ailleurs, enfin je crois que vous l'avez évoqué, est-ce que c'est un effet induit d'une pratique ou est-ce que c'est quelque chose de voulu parce que ça a un impact sur la population, parce que ça a un impact sur les éventuels combattants. Et alors, un des effets, moi je trouve quand même tout à fait frappant, c'est que ces derniers jours, là, on a entendu quelques experts, on a lu quelques spécialistes comme Jean-Pierre Perrin, là, sur son papier, par exemple, de ce matin. Je vois trois représentations qui cohabitent de l'État islamique
en Irak et au Levant.
Un, par exemple, Romain Caillé, par exemple, jeudi...
C'est l'Institut français du Proche-Orient.
Oui, c'est ça. Dans le Grain à Moudre, dans l'émission de France Culture, dit l'État islamique, c'est un État en construction. Il y a une armée, il y a de l'armement lourd, il y a une économie qui se met en place. Demain, il y aura probablement des frontières. En face de lui, Pierre-Jean Luisard...
Toujours dans le Grain à Moudre de France Culture.
Toujours. Lui répond, c'est un label de mouvements locaux qui se soulève. Il n'y a rien à voir. Et puis, je lis le papier de Jean-Pierre Perrin. D'hier matin, où il nous dit « C'est un conglomérat dans lequel on retrouve des bassistes, dans lequel on retrouve les tribus sunnites, etc. » Et d'ailleurs, j'ai un papier à peu près comparable de Ferah Alani, enfin, dire la thèse est comparable, où il parle, lui, d'une alliance contre nature, dans lequel on retrouve les bassistes, les sunnistes,
Même des soufis. Voilà. Qui sont les ennemis jurés normalement.
Donc trois représentations complètement contradictoires et qui ne sont pas vraiment débattues d'ailleurs.
Et là, est-ce que ce n'est pas des alliances de circonstances ? Ce qu'on appelle des alliances de circonstances pour gagner du terrain, etc.
Je crois que l'intérêt, c'est justement la multiplicité des troupes, la multiplicité des sources. C'est-à-dire que ce que l'expertise de Romain Caillé sur les réseaux djihadistes, qui est énorme, s'agrège à celle de Pierre-Jean Luisard, s'agrège à ce que Jean-Pierre Perrin récupère sur le terrain. C'est justement cet agrégat de sources qui permet de voir que ces analyses ne sont pas contradictoires. Elles sont,
Vous ne les trouvez pas contradictoires.
Attendez. Moi, je vais élargir un peu le débat. C'est-à-dire que ce recours aux experts, rendu en partie nécessaire aussi par l'absence de sources directes, malgré tout. On est d'accord, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, Agnès Rotivel. Est-ce que ce n'est pas une forme de cache-misère journalistique quand même? On va chercher des experts, mais bon, ils ne disent pas tous la même chose et donc on bricole, quoi.
Dans les années 50, Jean-Pierre Perrin. Dans les années 50, est-ce qu'on n'avait pas le même problème avec le Kremlin? On avait des experts qui nous disaient A, B, C, aucun surcoupé.
Justement, ça et fait finalement. Beaucoup, et au bout du compte, on avait beaucoup de baratin journalistique sur le sujet.
Tout à fait. Mais je veux dire, on est confronté au même problème qu'on a déjà rencontré dans le passé lorsqu'il s'agissait d'analyser la politique du Kremlin. On n'en avait pas la moindre idée, si ce n'est par des petites confidences ici et là. Et avec Al-Qaïda, est-ce qu'on n'a pas eu aussi le même problème de source? Évidemment.
Mais après, il faut faire
Agnès
aussi Rottivelle,
avec sur les experts, puis après Samy Katz aussi.
Il y a les experts, etc. Puis après, il y a quand même la connaissance que vous avez de la région ou du pays. Et quand on vous parle des tribus qui s'agrègent avec l'État islamique d'Irak, quand on connaît un peu certains chefs de tribus, on se doute bien que ça ne va pas durer, que c'est vraiment des alliances de circonstances. Oui, oui. Mais ça se comprend. Les sunnites veulent se débarrasser de ce pouvoir de Maliki. Donc, il faut des armes. Avant, ils avaient quelqu'un qui leur en donnait, c'était Saddam Hussein, qui leur donnait des armes et de l'argent. Après, ils ont eu les Américains qui leur ont éventuellement donné des armes et de l'argent parce qu'ils voulaient les tribus et pacifier la région. Mais et après, ils ne les ont plus. Donc, il fallait encore, pour se débarrasser de Maliki, il faut trouver de l'argent, il faut trouver des combattants qui sont efficaces. Et ils ont bien vu qu'ils étaient efficaces. Ceci dit, quand vous disiez qu'ils étaient, ou quand Sami Katz, je crois, disait qu'ils prospéraient en Syrie, je ne suis pas sûre que l'EIL prospère tant. Moi, d'après mes sources, ils ne prospèrent justement pas tant que ça. C'est pour ça qu'ils se sont repliés sur l'Irak et ils sont plus à la frontière irako-syrienne.
Sami Katz, AFP à Beyrouth, sur cette question des experts et du recours aux experts, quelle est, vous, votre vision de cette question-là et de cette pratique journalistique sur le sujet?
Je pense qu'on a toujours besoin d'experts, mais je pense qu'en fin de compte, ce que disent les trois experts, c'est pas contradictoire, c'est historique. C'est-à-dire qu'il faut reprendre à partir de 2003. 2003, il y a l'invasion américaine. À partir de là, les chiites arrivent au pouvoir. Les sunnites sont désemparés. Al-Qaïda arrive. Et à partir de là, Al-Qaïda va dire aux sunnites, je me souviens très bien, à Fallujah, quand on allait là-bas, etc., va dire, on va vous protéger. Et Al-Qaïda va commencer à protéger. Les tribus vont être avec Al-Qaïda à l'époque. Avec Zarqawi, et jusqu'au moment où Al-Qaïda va devenir tellement fou dans sa pratique que peu à peu les tribus vont se retourner contre elles. Et c'est pas parce que les Américains ont donné de l'argent que les tribus sont retournées contre elles, c'est parce qu'ils se sont d'abord retournés contre elles et ensuite les Américains ont compris le processus, ils l'ont fait. Mais ensuite Maliki va tellement pressuriser les sunnites qu'il va y avoir de nouveau un retournement de situation. Donc ce que dit Jean-Pierre, c'est vrai aussi. C'est vrai que, au départ, ces gens-là, ça commence par les gens du Bas, par les anciens Moukhabarats de Saddam Hussein. Ça commence par l'armée, parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains vont dissoudre l'armée de Saddam Hussein en mai 2003, et qu'à partir de là, il va y avoir des centaines de milliers de personnes qui vont se retrouver à la rue, des cadres, et ces gens-là vont rejoindre Al-Qaïda. Et je pense que tout ceci n'est pas contradictoire. Maintenant, ce que dit Romain sur les...
Romain Caillé, de l'Espoir.
Romain Caillé, c'est vrai que l'État islamique a comme stratégie de créer un État. Et donc, il dit d'ailleurs dans tous ses essais, comme nous sommes un État, nous avons des lois. À partir de là, ces lois, vous les respectez ou non, même si ces lois sont folles par truc. Mais je pense qu'ils ont comme idée de créer un État. Et quand en 2006, ils commencent à le créer en Irak, ils le font avec un ministre de la guerre, un ministre de ceci, un ministre de cela. Donc je pense que ces trois aspects ne sont pas contradictoires. Ils sont le fruit de l'histoire de l'Irak à partir de 2003 et à partir de l'invasion américaine.
Alors, il y a les experts, on vient de les évoquer, il y a aussi d'autres sources possibles, après tout, les diplomates, les services de renseignement, peut-être certains de nos confrères arabes qui peuvent être mieux informés que nous, journalistes occidentaux, voire les milieux économiques. Après tout, on se pose aussi la question du financement de l'État islamique en Irak au Levant. Est-ce que là, il y a des sources possibles, il y a des gens qui parlent? Jean-Pierre
Juste
Perrin.
Une parenthèse.
Mais après, on revient à ma question.
Oui, absolument. Sur les sites djihadistes, vous avez la bio d'Aboubakar El-Baghdadi. Je ne dis pas qu'elle est juste, mais elle est faite quand même, je pense, d'assez bonne foi. C'est-à-dire, on a tous son arbre généalogique, on fait remonter sa descendance, évidemment, à la famille du prophète, c'est inévitable, etc. Mais vous avez un nombre d'informations qu'on peut utiliser, parce que ce ne sont pas vraiment intéressantes, mais on a quand même de quoi commencer quelque chose, de quoi commencer une enquête. Moi, j'ai appris deux, trois petites choses sur, en lisant sa biographie sur un site, et elle est en anglais. Un anglais un petit peu, un anglais des faubourgs, mais peu importe, c'est pas mal.
Et sur mon autre question, c'est-à-dire les sources diplomatiques, de renseignements, économiques, est-ce qu'il y a des choses qui sortent et qui vous permettent d'alimenter votre réflexion et votre travail sur l'État islamique en Irak et au Levant ?
J'ai rencontré certains diplomates à Bagdad, une fois n'est pas coutume, direz-vous, mais qui étaient assez bien informés, et j'ai eu aussi pas mal d'informations grâce à eux.
Claude Guibal ?
Oui, je crois que, comme pour tous les sujets, aucune source, d'où qu'elle vienne, n'est à négliger. Il faut juste identifier sa source, savoir pourquoi elle nous parle, quel est son intérêt de nous parler, mais donc l'identifier, la cerner du mieux possible. Mais oui, les sources, elles sont vraiment multiples. Elles sont même tellement nombreuses que le problème est de faire le tri.
Alors, développons aussi ce que vient de dire Jean-Pierre Perrin à l'instant, c'est-à-dire finalement l'information que nous livre Daesh, ISIS, État islamique en Irak, via notamment Internet ou via les images. Et là, je me tourne vers notre homme des images et du multimédia, parce que y a, sur la question des images, par exemple, il y a très peu d'images des troupes ou des militants de l'État islamique en Irak, hormis soit des images de propagande qu'ils diffusent eux-mêmes, soit des images dont on a le droit de penser qu'ils les laissent prendre par des professionnels à des fins de propagande. Et là encore, on se retrouve avec cette dimension un peu mythique, iconique, assez forte. Il y a une photo en particulier qui a été récurrente ces dernières semaines dans la presse et dont vous pouvez nous parler peut-être, Eric, on l'a sous les yeux ici dans le studio.
Oui, on est le 2 janvier dernier, en fait. C'est une photo signée de Yasser Al-Qaeda pour l'agence Reuters. Et on a face à nous deux rangées d'hommes, tous armée de Kalachnikov. Ils défilent après leur victoire, côté syrien, en fait, dans une rue de ce poste frontière stratégique avec la Turquie. Et l'image, elle donne une impression de puissance parce que, d'abord, on ne voit pas du tout la fin du cortège, qui est plutôt bien ordonné. Cortège qui comprend aussi, d'ailleurs, un 4x4 équipé d'une mitrailleuse lourde au milieu. Et puis, l'impact, la force de cette parade, c'est également le noir qui l'anime. Cagoule, gants, tout le corps. Il y a juste les chaussures, hein, souvent des baskets, qui sont beaucoup moins uniformes. Mais globalement, c'est avant tout du noir qui fait du coup ressortir les regards. On peut penser aux anarchistes, aux nihilistes, mais plutôt tout de même à une armée de ninjas là, qui se déploie et qui est derrière l'étendard djihadiste en tête de troupes qui, lui aussi, est noir. C'est l'étendard type hein, des djihadistes. Et puis sur cette photo, même si d'après certains gabarits, on devine de très jeunes soldats, voire, qui sait, des adolescents, et un agrégat hétérogène, hein, on le disait tout à l'heure, c'est ce qu'estiment les chercheurs, on voit, on lit la détermination de cette masse, de ces forces de l'ombre, cette silhouette qu'évoquait tout à l'heure Jean-Marie Charon, qui contraste dans cette rue de terre battue, blanche, battue par le soleil.
Et flagrant aussi l'utilisation d'images et de photographies en fait fournies par Daesh, ISIS, État islamique en Irak et au Levant. Par exemple, dans le Monde daté d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout un procès d'intention au Monde évidemment, mais demi-page, page 2, hein, c'est quand même avec ces djihadistes, c'est une image captée sur un site djihadiste. Elle fait une demi-page dans le Monde. Ça pose quand même, enfin, je sais pas, ça pose un tout petit problème journalistique peut-être, non ? Est-ce qu'on ne se fait pas le relais tout simplement de la propagande de l'État islamique en Irak et au Levant, Agnès Routibel.
Moi, je suis un peu étonnée que vous soyez surpris par cette photo. Je veux dire, quand on allait à Gaza et qu'on voyait défiler le djihad islamique, c'est pareil.
Le Hezbollah aussi,
c'est pas... Je veux dire, on est dans un... Je pense que ça nous choque
mais
parce qu'on est en France.
Mais là, prenons par exemple cette image aussi du Monde. Image flagrante d'aujourd'hui, encore une fois, c'est une image captée sur un site djihadiste. Elle fait une demi-page.
Alors, le fait que ce soit capté sur un site djihadiste, moi personnellement, effectivement, j'ai un peu de mal avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux en termes d'images, parce que moi, je ne sais pas les décrypter. Donc, je ne sais pas si vous pouvez
les sourcer, peut-être.
Ou les sourcer, voilà. Mais même les décrypter.
Mais est-ce que vous voyez des gens le seul fait de reproduire ces images, ça ne savait pas faire le jeu des djihadistes.
C'est pas qui est qui. Vous n'allez pas me dire.
Jean-Pierre Perrin.
Je ne crois pas qu'on peut aller jusque-là quand même. Je veux dire, ils ont une telle mauvaise presse légitimement qu'une photo ne va pas changer quand même notre perception des choses. Simplement, elles sont quand même instructives, ces photos. Même si elles viennent d'eux, on voit quand même, il y a des signes, on voit quand même la cohésion du groupe, par exemple, à travers cette photo. On voit parler de leur détermination. On voit le fait qu'ils ont tous un uniforme noir aussi indique quelque chose.
C'est flagrant. Ouais.
Il y a aussi ces vidéos donc, qui sont assez utilisées et qui témoignent de leur capacité forte que l'on connaît de la part des djihadistes à structurer leur communication.
يا دولة الإسلام نورت الدنا جادت سماك بوافر البركات لما أقمت الدين فعلت
ثار المسلمون في أرض الشام الطيبة.
Par exemple, là, ce qu'on entend, c'est une vidéo très facile à trouver sur Internet. En deux clics, vous y êtes. C'est une vidéo de propagande de l'État islamique en Irak et au Levant qui raconte en fait sa propre histoire de façon évidemment agéographique. Et de la même manière, Eric Chavreau, on peut évidemment trouver les communiqués de ce groupe djihadiste via les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter.
Oui, alors il n'y a pas de compte officiel à proprement dit, hein, mais il y a plus des comptes affiliés dans la mouvance, dont un qui publie systématiquement tous les communiqués, qui est destiné à 54 000 abonnés tout de même. Et puis, il y en a un autre aussi qui lui s'appelle Dola News Media. Alors, ses tweets ne sont plus publics. Lui, on dit qu'il est lié à l'État islamique. Et des personnes du monde entier l'interpellent. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure de Saint-Pétersbourg l'interpelle pour rejoindre ses troupes sur le terrain. Et il a été victime cette semaine d'attaques de tweetos turcs et kurdes furieux de ce qui s'était passé à Mossoul. Et ce qui se passe aussi, c'est que cette médiatisation, elle passe beaucoup par les djihadistes eux-mêmes, par le biais de selfies. C'est assez surprenant. C'est qu'on les voit se prendre en photo, pas forcément sur les lignes de front d'ailleurs, en arrière, souvent en armes, justement dans les cybercafés.
Et sur les réseaux sociaux aussi, beaucoup de vidéos, dont une assez impressionnante qu'on a beaucoup vu circuler ces derniers jours.
Oui, alors ça, ce sont les observateurs de France 24 qui racontent tout ça en détail. C'est une véritable super production qui a été révélée il y a un mois, un film de propagande d'une heure, intitulé, tenez-vous bien, Le choc des épées 4, à la manière d'Hollywood, parce qu'en fait, c'est une véritable série, hein, ça a commencé déjà bien avant, et c'est un film qui commence avec une plongée à la façon carte en 3D, un peu comme dans Google Earth, et derrière, des images filmées par un drone. Ça, c'est pour le grand spectacle. Ce qu'il y a, c'est qu'ensuite, on a des images absolument atroces, une violence rare, des exécutions en pleine rue. Alors, YouTube a vainement essayé d'effacer ces images, mais sans succès. Et pendant ce temps-là, il y a un journaliste de CNN qui a noté aussi qu'il y a des plans, des images, des scènes qui ressemblent à un film américain, Zero Dark City, qui racontait la traque de Ben Laden.
Claude Ibal, vous avez amené aussi ici dans le studio une sorte de revue de l'État islamique en Irak et au Levant, c'est ça ?
Islamic State News, c'est leur deuxième numéro, donc, qui est daté du mois de Shaban 1435, c'est-à-dire le mois de juin, c'est ce mois-ci. C'est une revue en anglais que l'on trouve justement sur un des comptes Twitter semi-officiels de l'État islamique et qui est assez intéressante parce que finalement... elle est très représentative de l'image que veut renvoyer l'État islamique, qui est à la fois l'ultra-violence. Vous trouvez dedans donc des scènes d'exécution, la glorification du martyr, et puis en même temps la félicité de la vie dans un État gouverné par la charia, parce que la une de ce magazine...
C'est-à-dire que les marchés sont remplis,
voilà,
etc.
Là, c'est le titre, hein, c'est « Le commerce fleurit sous le règne de l'État islamique », et donc on voit des étals pleins d'oranges, etc. Et on est donc au marché d'Alep, avec des produits frais qui nous sont vantés comme ça sur plusieurs pages. Ensuite, on visite un camp de réfugiés avec eux. On nous fait un petit peu la pub des combattants étrangers qui viennent comme ça rejoindre l'État islamique. On a donc Abdourahim El-Faransi, le français, qui est donc dans le visage de Ahmad ou Mamad, Othman El-Almani, donc Othman l'Allemand. Ils sont pris en photo, ce sont justement ces fameux selfies dont vous parlez. On nous montre aussi quelques exécutions, voilà, et tout cela, ça circule très facilement. Et c'est très intéressant, vous parliez de ces images qu'on reprend, mais ces images, elles sont pleines de messages, tout comme quand cette semaine, l'État islamique en Irak et au Levant diffuse les images de ce bulldozer qui aplatit ce mur de sable symbolique pour montrer qu'il a franchi une frontière et donc établi la jonction. Il est bien clair que quand on réutilise ces images...
Jean-Pierre Perrin.
Oui. Ouais. Simplement, le bulldozer signifie qu'ils abolissent la frontière tracée par les colonialistes
entre
la Syrie et l'Irak.
Et le message est très fort. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre.
Sami Khetz, LFP à Beyrouth, est-ce que vous avez la sensation qu'une nouvelle fois, comme on a pu le vivre avec Al-Qaïda précédemment, la presse et le journalisme, en quelque sorte, est un peu prisonnier de la logique de communication d'un groupe comme l'État islamique en Irak et au Levant?
Je ne sais pas si on est prisonnier, en tout cas on est obligé de tenir compte de ce qu'ils font. Je pense que effectivement ils ont à la fois des moyens de propagande qui sont très importants et qui sont en tout cas très bien faits. Moi j'ai vu des films et je trouve qu'ils sont vraiment de qualité professionnelle. Et puis le reste, ça c'est ce qu'on a dit auparavant, nous pouvons avoir nos informations par différentes sources, les habitants, les stringers, les différentes choses. Par exemple, j'ai vu aujourd'hui à une vidéo où on voyait les gens de l'État islamique qui défilaient à Mossoul dans des camions de l'armée irakienne qui ont été volés avec le sigle de l'État islamique et donc applaudis par les gens qui étaient sur le bord du trottoir.
Du risque, Agnès Rotivel, d'être une nouvelle fois prisonnier de ce professionnalisme de la communication des groupes djihadistes, c'est
non,
encore le cas
non,
là ou pas?
Dans la mesure où vous arrivez à le décrypter, effectivement, comme disait Jean-Pierre Perrin, comme Claude le dit, c'est une source d'information aussi, et ça fait aussi partie de leur culture. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur de gens qui utilisent les mêmes moyens que l'on trouve aussi ici en Europe.
Jean-Pierre Perrin, ouais,
oui. Oui, on lisait aussi, enfin les kremlinologues, je reviens à ma comparaison, lisaient la Pravda pour savoir deux, trois choses sur ce qui se passait au sein du Kremlin. Donc on a effectivement ce même problème. On est bien d'accord sur un point, il n'y a personne qui les accompagne. Voilà, ça c'est le vrai problème. Donc on ne sait pas comment ils se comportent sur le terrain. Simplement, il y a des tas de manières de récupérer l'information. On a les réfugiés, mais avez-vous pensé par exemple aussi aux otages? Otages qui ont vécu 9 mois ou 10 mois, 11 mois avec eux.
Mais qui ne sont pas nécessairement totalement libres de leur parole non plus.
Absolument, absolument. Ou alors ils peuvent vous parler, mais vous ne les citez, vous
ne,
vous
ne serait-ce
pas
que parce qu'il y a encore d'autres otages, voilà, donc leur parole
encore,
n'est pas totalement libre.
Il y a encore 9 autres. Mais enfin, dès que le premier otage est sorti, c'est un Espagnol, je me suis précipité à Barcelone pour aller le voir, j'étais totalement esbobie parce que j'ai appris que je n'ai pas utilisé, évidemment, pour ne pas mettre en danger la vie des autres otages, mais encore aujourd'hui, je n'en croyais pas mes oreilles. Quoi. Mais c'est-à-dire, on apprend quand même des choses par tous les moyens, quand même. Ils ont un territoire tellement vaste que l'information est obligée de filtrer quelque part ici ou là.
Le secret des sources touche à sa fin. Exceptionnellement, pas de clin d'œil de Yacine Bouzard cette semaine. Peuvent-ils vraiment savoir qui est l'État islamique en Irak et au Levant? Vous commentez, vous réécoutez, vous téléchargez comme chaque semaine sur franceculture.fr. Agnès Rotivel, Jean-Pierre Perrin, Claude Guibal, Sami Khetz, Éric Chavroux, Jean-Marie Charon étaient ce matin dans Le Secret des Sources. Merci à tous. Jean-Pierre Perrin, on doit encore pouvoir trouver dans les bonnes librairies votre dernier livre, hein, La mort est ma servante, chez Fayard.
Ça fait énormément plaisir.
Oh, ça doit pouvoir se trouver sur le conflit en Syrie.
Merci.
C'est paru chez Fayard. Dans quelques minutes après le journal de Sarah Petitbon, réplique. Ce matin, Ethan Frome, roman d'Edith Wharton. Alain Finkielkraut reçoit Julie Wolkenstein et Frédéric Vitoux. Prenez soin de vous.
J'ai eu la chance de rencontrer un expert, un jeune chercheur irakien qui travaille, m'a-t-il dit, 6 heures par jour uniquement sur les groupes extrémistes sunnites et qui, dit-il, je les connais mieux que mes fils.
À Raqqa, il n'y a quasiment plus de journalistes, citoyens, locaux ou qui peuvent aujourd'hui informer. La plupart ont quitté vers la Turquie et ceux qui n'ont pas quitté sont en prison ou torturés ou dans des conditions atroces de vie, quoi.
Les gens, a priori, sont aussi des bonnes sources, parce qu'ils vous décrivent ce qui se passe, ils vous décrivent comment... Je veux dire, il faut pas négliger ça, la source qui est la population aussi, qui connaît, qui sait comment ça fonctionne, et qui est une aussi bonne source qu'un fixeur, par exemple.